Bonsoir. Quel avenir pour Mossoul en Irak alors que l'offensive armée lancée par les forces spéciales irakiennes et la coalition internationale progresse? Une réunion internationale s'est tenue ce matin au Quai d'Orsay à Paris. Nous serons avec Sarah Maquet pour un compte-rendu au début de ce journal. Nous rejoindrons ensuite notre envoyée spéciale en Syrie, Valérie Crova. La pause humanitaire est prolongée au moins jusqu'à samedi soir à Alep. Pour l'instant, aucun civil évacué. L'ONU espère au moins sortir les blessés des quartiers Est à partir de demain. La Syrie également au menu des chefs d'État européens ce soir à Bruxelles avec cette question. Faut-il sanctionner la Russie après les bombardements sur Alep en appui du régime de Damas? Pierre Benazé va nous résumer l'état des négociations. En France, actualité de nouveau marquée par la colère des policiers. Nouvelle manifestation organisée à Lyon ce soir. Nous serons avec le spécialiste Christian Moina pour analyser le sentiment de défiance des forces de l'ordre à l'encontre de leur hiérarchie et de leurs syndicats. Enfin, en Isère, les salariés d'Ecopla ne pourront pas reprendre leur entreprise sous une forme coopérative. Leur recours a été rejeté cet après-midi en appel. Nous entendrons leur colère. L'opération de reconquête de Mossoul progresse plus rapidement que prévu. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Premier ministre irakien à l'occasion d'une visioconférence au Quai d'Orsay à Paris. Le ministère des Affaires étrangères a accueilli une réunion internationale pour parler de l'avenir de la ville, toujours occupée par plusieurs milliers de djihadistes. Sur le terrain, les forces spéciales irakiennes sont en train d'encercler Mossoul avec l'aide de combattants kurdes et l'appui des frappes de la coalition internationale. La bataille sera longue et difficile, a prévenu François Hollande ce matin. Bataille complexe, mais l'après, construit déjà. Bonsoir Sarah Maquet.
Bonsoir Anne.
Vous avez suivi la réunion au Quai d'Orsay sur l'avenir de Mossoul ce matin, une réunion de laquelle est sorti renforcé le gouvernement irakien.
Respecter la souveraineté de l'Irak. La phrase a été répétée à maintes reprises ce matin. Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères, a insisté sur la place centrale du gouvernement irakien.
Les forces qui interviennent dans les opérations de libération de Mossoul doivent agir avec l'accord express des autorités irakiennes. Ce point est très important. C'est l'élaboration d'un plan de stabilisation efficace par les autorités irakiennes de la gouvernance future de Mossoul.
Le Premier ministre irakien a également expliqué que Mossoul est une guerre irakienne sous conduite irakienne et pour la libération du territoire irakien. Oui, mais sur le terrain, à quelques kilomètres de Mossoul, ville sunnite, les inquiétudes persistent. Les milices chiites, pour la plupart entraînées par l'Iran, sont entrées dans la bataille. Des milices qu'Amnesty International accuse de crimes de guerre contre des Arabes sunnites. Des accusations balayées par Ibrahim al-Jafari, le ministre des Affaires étrangères irakien.
La cohésion des habitants de Mossoul sera garantie. La ville de Mossoul a toujours été connue comme un exemple de cohabitation pacifique entre les communautés. Et après cet état d'urgence exceptionnel, toutes ces forces seront dissolues et chacun reviendra à sa vie normale.
Mais ensuite, quelle place pour les Turcs, par exemple, présents dans la région de Mossoul et que Bagdad ne tolère qu'avec méfiance? Et quelle garantie pour les minorités, sachant que la faiblesse de l'État irakien est à l'origine d'une grande instabilité politique, matière première des recruteurs djihadistes? Hilal al-Abidi, activiste irakien, ne croit absolument pas, par exemple, que son gouvernement puisse assurer la paix.
Il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce gouvernement irakien. Cette gouvernement, il n'y a pas de ministre de défense, pas de ministre de l'intérieur, pas de ministre de finances. C'est un gouvernement handicapé. Donc ce n'est pas une démocratie, une vraie démocratie.
Reste que la reprise en main du pays par le gouvernement irakien est pour l'instant la seule option mise en avant par la communauté internationale. Prochaine réunion sur le sujet dans 5 jours, de nouveau à Paris.
Merci Sarah Maquet pour vos explications. C'est une annonce d'importance concernant le Liban qui n'a plus de président depuis plus de 2 ans. L'ex-général Michel Aoun est assuré de devenir le nouveau chef de l'État à la fin du mois. Cet après-midi à Beyrouth, son adversaire politique, l'ancien premier ministre sunnite Saad Hariri, lui a apporté son soutien. Michel Aoun pour un ainsi obtenir la majorité des voix des députés lors de la prochaine session du Parlement qui compte 128 élus répartis à parts égales entre chrétiens et musulmans. En Syrie, à Alep, les Nations Unies espèrent évacuer demain les premiers blessés des quartiers rebelles assiégés. La pause humanitaire décrétée hier par Moscou est entrée en vigueur ce matin. 200 personnes environ doivent être évacuées de toute urgence, selon l'ONU, depuis ces quartiers Est. Elle pourrait finalement durer jusqu'à samedi soir, cette trêve. Bonsoir Valérie Crova.
Bonsoir.
Vous êtes notre envoyé spécial en direct d'Alep. Vous vous trouvez dans les quartiers ouest dirigés par le régime de Damas. 8 couloirs humanitaires ont été créés, dont 6 pour l'évacuation des malades et des civils. Pour l'instant, c'est le statu quo, pas d'évacuation en vue.
Oui, et ceux qui pensaient voir de longues files au point de passage ont été déçus. Aucun civil n'a profité de cette première journée de pause humanitaire pour sortir d'Alep Est. Les autorités syriennes avaient pourtant tout organisé pour montrer aux médias présents qu'elles étaient prêtes à accueillir les premiers civils, bus pour les transporter, ambulances pour emmener les blessés, messages par haut-parleur pour expliquer les consignes de sécurité, mais aucun habitant d'Alep Est n'a franchi la frontière qui sépare la ville en deux. Il serait plus de 200 000 à vivre côté Est dans des conditions terribles depuis que l'armée syrienne leur impose un siège impitoyable. Alors, pourquoi ces civils ne profitent pas de cette trêve, du moins pour l'instant, pour sortir ? Eh bien, plusieurs raisons sont avancées. Côté gouvernemental où je me trouve, ce sont les rebelles les plus extrémistes qui les en empêcheraient, car ils se serviraient des civils comme boucliers humains. Une femme rencontrée sur le marché tout à l'heure m'expliquait quant à elle que certains groupes rebelles demandaient de l'argent à ceux qui voulaient sortir. Aucun moyen de vérifier ces informations. Enfin, une autre explication vient cette fois de l'opposition. Les civils ont tout simplement peur de passer côté ouest, c'est-à-dire côté gouvernemental, après avoir vécu pendant 4 ans avec la rébellion. Pour d'autres, eh bien, cette pause n'aurait d'humanitaire que le nom, car elle servirait de prétexte à l'armée syrienne dont le but serait de vider la partie est d'Alep de sa population pour contraindre les rebelles à se rendre ou à défaut pour lancer un ultime assaut avant de reprendre les quartiers qu'elle contrôle. Il se dit d'ailleurs que les différentes factions seraient en désaccord entre elles. Elles seraient certaines d'accord pour que les blessés soient évacués et d'autres s'y opposeraient. Certains groupes voudraient quitter Alep. D'autres seraient prêts à mourir sur place. C'est peut-être aussi cela, le but de Damas et de Moscou, créer des dissensions, des divisions entre les rebelles pour mieux les affaiblir.
Merci Valérie Crova pour vos explications en direct des quartiers ouest d'Alep. À Bruxelles, au sommet européen des chefs d'État qui vient de démarrer, la Syrie est également au cœur des préoccupations en cette fin d'après-midi. Une partie des discussions devrait porter sur les relations entre l'Union européenne et la Russie. Les 28 chefs d'État et de gouvernement n'excluent pas de sanctionner les soutiens du régime de Bachar el-Assad et donc en particulier Moscou. Le président du Conseil, Donald Tusk, l'a expliqué tout à l'heure, il sera vraiment difficile, voire impossible, d'évoquer ce dossier sans se référer aux attaques contre les populations civiles à Alep. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Bruxelles où vous suivez ce Conseil européen et ses négociations donc sur la Syrie.
Oui, et Alep, évidemment, c'est le point central à l'ordre du jour pour les Européens. Ils ont l'intention d'exprimer ce qu'ils appellent une expression politique forte, c'est-à-dire que face à la terreur et la dégradation de la situation, ils vont émettre une forte condamnation, une ferme condamnation des bombardements des forces gouvernementales syriennes et de leurs alliés russes. Les 28 vont aussi marteler ce que leurs ministres des Affaires étrangères ont déjà commencé à évoquer lors de leur réunion de lundi, à savoir que ce qui se passe en Syrie, et particulièrement à Alep, relève des crimes de guerre, que les responsables devront en répondre, et que des preuves devront être collectées à leur encontre au bénéfice de la Cour pénale internationale. Le plus important, c'est évidemment le fait que ce sommet devrait appeler à des sanctions. Elles étaient prévues initialement contre la Syrie et les soutiens syriens au régime bassiste de Bachar el-Assad, mais les 28 ont changé leur fusil d'épaule ce matin. Ils ont enlevé le mot « syrien » pour qualifier les soutiens au régime. Ceci est vu comme une porte ouverte à d'éventuelles sanctions à l'encontre de la Russie, même si les Européens attendent d'abord le compte-rendu du président français et de la chancelière allemande après leur rencontre avec Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine hier. Mais bien que François Hollande et Angela Merkel aient eux-mêmes évoqué cette éventualité de sanctions, à part en Europe centrale et orientale, une bonne partie des Européens sont pour l'instant plutôt rétifs à sanctionner la Russie.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles pour France Culture. Les Européens devraient également évoquer ce soir le Brexit britannique. La Première ministre Theresa May est venue apaiser les craintes d'une sortie dure du Royaume-Uni avec contrôle de l'immigration des citoyens de l'Union européenne. François Hollande a prévenu tout à l'heure que dans ce cadre, les négociations seraient rudes. Quant au CETA, dont le sujet sera évoqué demain, Donald Tusk menace après le veto wallon. L'accord de libre-échange avec le Canada pourrait être le dernier accord accord commercial de l'Union européenne en cas d'échec, a-t-il déclaré. Un dernier mot de la guerre en Syrie. La Turquie a mené une vingtaine de frappes la nuit dernière dans la province d'Alep. Elles ont fait au moins une vingtaine de victimes parmi les combattants kurdes. Parallèlement, Ankara a bombardé à l'artillerie depuis sa frontière le principal fief des Kurdes de Syrie dans la région d'Afrin, toujours au nord d'Alep. Un nouveau rassemblement spontané de policiers est prévu ce soir à Lyon. Même type de mobilisation que ces trois dernières nuits à Paris, Toulouse, Bordeaux, Nancy ou encore Lille. Depuis Francfort, où il est en déplacement, le Premier ministre Manuel Valls a exhorté les policiers à continuer le dialogue entamé avec le gouvernement. Hier soir, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a promis aux syndicats des forces de l'ordre, eux-mêmes dépassés par leur base, qu'une concertation serait lancée dès lundi par le gouvernement. Christian Moina est chercheur au CNRS, spécialiste des questions de police et de justice. Il analyse justement le décalage entre les syndicats policiers et leurs bases.
Depuis au moins les années 80, on a de manière récurrente des manifestations de policiers qui ne sont pas organisées par des syndicats. On peut penser par exemple à la fin de l'année 2001, quand Lionel Jospin était Premier ministre, il y a eu des manifestations très fortes de policiers et de gendarmes en uniforme et dans leurs voitures sérigraphiées dans les rues.
Néanmoins, est-ce que ces derniers jours, on a vu ce phénomène s'accentuer ?
On a vu, c'est une critique qui m'apparaît plus forte des syndicats qu'auparavant, puisqu'auparavant il y avait déjà des critiques assez fortes contre l'État. De manière récurrente, il y a des critiques contre la justice, ce qui apparaît assez nouveau, ou en tout cas qui s'exprime de manière plus visible, plus publique, c'est cette défiance contre l'appareil syndical policier qui, à vrai dire, est associé depuis très longtemps à la gestion de l'institution policière, puisqu'on a des institutions en quelque sorte de co-gestion de la police. C'est une manifestation qui, pour une partie au moins, émane de policiers qui sont dans la rue. Un rapport de la Cour des comptes paru il y a quelques années soulignait le fait qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui sont des permanents, qui ne sont absolument plus dans les rues, ne sont plus à travailler dans la rue comme les policiers qui sont en patrouille, et donc sont associés finalement aux gestionnaires, aux élites, entre guillemets, que critiquent les policiers de base. Par ailleurs, on voit qu'il y a un ras-le-bol, pour utiliser un terme un peu courant, un ras-le-bol des policiers contre tout le fonctionnement de l'organisation policière. Et comme je l'ai dit, les syndicalistes participent à cette gestion. Ils sont dans des comités paritaires, ils participent aux promotions, aux mutations, etc.
On voit les syndicats qui essaient de rattraper le coup, si je puis me permettre. Et on les a vus hier aller à la rencontre du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice. Mais les manifestations ont continué la nuit dernière.
Oui, en plus, tout ça se déroule sur un fond où les syndicats, comme dans beaucoup d'organisations françaises, contrairement à des pays comme l'Allemagne où vous avez un gros syndicat, en France on a toujours dans chaque organisation plusieurs syndicats, et donc il y a une concurrence féroce entre syndicats au moment des élections professionnelles, etc. Donc il y a à la fois les syndicats qui sont débordés par la base et une espèce de surenchère souvent entre syndicats eux-mêmes.
Une interview signée Antoine Marette. Sur la défensive concernant ce sujet de la contestation policière, le gouvernement a accusé la droite d'avoir supprimé 10 000 postes de policiers lorsqu'elle était aux responsabilités. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadéliste, y voit aussi, je cite, la patte du Front National, soupçon balayé par la présidente du FN, Marine Le Pen, qui évoque le mécontentement légitime et sain des policiers. Nicolas Sarkozy a aussi remis le sujet sur la table en début d'après-midi. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Anne.
Le candidat à la primaire de la droite s'en est pris à Bernard Cazeneuve, qui rappelle un peu, en rappelant un peu les outrances auxquelles se livre le candidat Donald Trump aux États-Unis.
Oui, Nicolas Sarkozy a dénoncé les mensonges de Bernard Cazeneuve en le qualifiant, je cite, de ce qui nous sert de ministre de l'Intérieur. Il n'est pas question là de savoir si oui ou non Nicolas Sarkozy a raison de critiquer Cazeneuve, la manière dont il se défend ou la façon qu'il a de gérer l'exaspération des policiers en colère. Non, il est question de se pencher sur la nature de l'expression employée par Sarkozy, ce qui nous sert de ministre de l'Intérieur. Car elle nous dit peut-être quelque chose de ce qui est en train de se passer dans la primaire à droite dont le premier tour aura lieu dans un mois. L'ancien président de la République nous avait habitués à des outrances, à des expressions qui claquent médiatiquement, ce qui lui permet à chaque fois de se placer au centre du débat. Mais là, il semble qu'il ait franchi un cap. Car au-delà de l'insulte, cette expression est méprisante, elle est même méchante. Et elle donne l'impression qu'on a là un combattant au pied du mur qui n'a d'autre solution que de ne plus retenir ses coups pour espérer encore s'en sortir. Parce qu'il est à la peine dans les sondages, Nicolas Sarkozy en rajoute encore dans la violence et la transgression et semble se caricaturer lui-même. Un peu comme Donald Trump, effectivement. Il n'a d'autre choix que la stratégie de la fuite en avant, C'est un peu comme dans une course hippique, si vous permettez la comparaison. On est dans la dernière ligne droite et il n'est pas question de changer de direction, de s'écarter ou de se rabattre à la corde. La seule solution, c'est la cravache tout droit et à fond. C'est manifestement ce qu'est en train de faire Nicolas Sarkozy, ne semblant pas vraiment se rendre compte que c'est peut-être ça, la violence et les outrances qui, depuis quelques semaines, le font stagner, voire reculer dans les intentions de vote mesurées par les différentes enquêtes d'opinion.
Merci Stéphane Robert pour votre analyse. Alors que la jungle de Calais doit être démantelée ces prochains jours, Bernard Cazeneuve, toujours le ministre de l'Intérieur, a inauguré un projet de site pilote universitaire ce matin à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. À la demande de l'État, le Crous de Lille a mis à disposition 80 chambres meublées d'une résidence universitaire à destination de demandeurs d'asile et de réfugiés. Initiative de l'association L'Auberge des Migrants qui œuvre dans la jungle de Calais et d'un professeur de l'université de Lille 3. Marion Chantreau, vous nous présentez ce dispositif.
Après avoir pris leur marque dans les chambres individuelles de la résidence universitaire qui les accueille, Ibrahim et les autres échangent avec Bernard Cazeneuve sur leur avenir.
On a pris notre décision de rester en France et merci. Grâce à vous, maintenant nous sommes là et on va continuer d'étudier le français. Moi, je veux être un traducteur.
Ils sont tous titulaires au moins du bac et vont recevoir des cours de français durant un an avant de s'orienter vers une filière de leur choix, explique le ministre.
C'est fondamental l'apprentissage de la langue française. Si on veut réussir très vite l'intégration, l'accès à la formation, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des études et qui peuvent, sur les emplois en tension, aussi représenter un intérêt compte tenu de leurs compétences.
Jean-Marc, 26 ans, arrive du Darfour, le bac en poche, chassé par la guerre au Soudan.
J'ai jamais parlé français quand j'ai arrivé là et j'ai commencé dans la jungle. J'ai posé mon dossier et j'ai eu la chance pour arriver là. Je suis content.
Les étudiants de la fac souhaitent les aider à s'intégrer, témoigne Maëlys en troisième année d'histoire.
On met des petits groupes en place pour leur montrer comment ça se passe les cours, comment ça se passe la BU, leur montrer l'île, être avec eux, les soutenir pour leur retour à une vie plus normale.
Accompagnés en parallèle par des travailleurs sociaux, ils relèvent du statut de réfugiés, mais certains n'ont pas encore obtenu l'asile en France.
Le reportage de Marion Chantreau de France Bleu Nord. La déception pour les anciens salariés d'Ecopla, la Cour d'appel de Grenoble a rejeté leur recours. Ils ne pourront pas reprendre sous forme de coopérative leur entreprise installée à Saint-Vincent-de-Mercuse et spécialisée dans la fabrication de barquettes d'aluminium. Le projet de SCOP prévoyait la reprise de 25 salariés dans l'immédiat, puis de 50 emplois d'ici à 3 ans. Les salariés avaient levé plus de 2 millions d'euros et reçu le soutien de nombreux élus. Le reportage d'Antonin Kermain de France Bleu Isère.
Le comité de soutien a beau donner de la voix devant le palais de justice, à l'intérieur, le droit n'est pas favorable aux Ecopla. En tant que candidat à la reprise, il ne pouvait pas contester la décision du tribunal de commerce. Seul le parquet aurait pu le faire, ce qui ajoute au sentiment de gâchis des anciens salariés comme Gaëtan Zapia.
Quand vous écoutez la juge presque vous dire que votre projet est super bon, en fait, dans ces mots, c'est ce qu'on a compris. Il vous dit, ouais, c'est le procureur, on fait son boulot en temps et en heure, on aurait pu sauver Copla. Et ça fait très mal.
Contacté, le parquet de Grenoble explique que s'il n'y a pas eu d'appel, c'est parce que la solution italienne était la meilleure concernant la reprise des actifs de l'usine. Les anciens salariés d'Ecopla attendent eux maintenant la décision concernant un autre appel. Mais désormais, Christophe Chevalier et ses collègues veulent surtout que le ministre de l'économie, Michel Sapin, les aide.
C'est de leur faute, donc il faut qu'ils nous aident à retrouver notre emploi. Ils font ce qu'ils veulent. Après, je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Et eux, ils doivent bien le savoir, quoique des fois, j'en doute. On veut qu'il nous explique, lui, et ce qu'il va faire pour la suite, pour Ecopla, pour que cette entreprise, elle revienne à son activité.
Les anciens salariés d'Ecopla devraient rencontrer Michel Sapin demain à Strasbourg.
À Reims, deux jeunes femmes de confession musulmane étaient jugées ce matin. Elles sont accusées d'avoir roué de coups leur cousine en janvier dernier parce qu'elle est en couple avec un non-musulman. Les trois femmes étaient présentes ce matin au tribunal correctionnel de Reims. Les deux prévenues affirment que la religion n'a rien à voir avec cette altercation. L'avocat de la victime a au contraire démenti, expliquant que sa cliente est toujours sous le choc. Renaud Biondimogé.
Son avocat a dû faire preuve de persuasion pour la convaincre de témoigner. Apeurée, à la barre, la victime raconte cette soirée de violence. Alors que ses deux cousines exigent que son compagnon se convertisse à l'islam ou qu'elle le quitte, l'échange dégénère, coup de poing, gifle. Ses deux cousines, dit-elle, la poursuivent jusqu'aux urgences, puis au commissariat où elle se rend porter plainte. On m'a dit que j'étais moins que rien, mais je veux décider de ma vie, clame la jeune femme, avant d'évoquer les menaces de mort proférées par son père. Si je te trouve, je te tue. Son avocat, maître Miravette.
Elle a un choix absolument cornélien, c'est-à-dire que c'est soit sa famille, soit sa vie. Mais les deux sont incompatibles. Voilà. la situation dans laquelle elle est.
Le procureur requiert 3 mois de prison avec sursis à l'encontre des 2 jeunes prévenus, lesquels contestent tout mobile religieux. Elles évoquent une simple mésentente familiale. Elles sont défendues par Maître Daouda Diop.
Ce n'est pas un conflit interreligieux, ce n'est pas une guerre de civilisation. Non, non, non. C'est des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques.
La victime, elle, a décidé de changer de région pour pouvoir, c'est son avocat qui le dit, vivre comme elle l'entend.
Les précisions de Renaud Biondi-Mauger de France Bleu Champagne-Ardenne. Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre prochain. Au Japon, à Tokyo, l'action du groupe Mitsubishi Motors a clôturé en hausse tout à l'heure. Les marchés saluent l'entrée de Nissan au capital du groupe à hauteur de 35%, ce qui devrait permettre de relancer l'entreprise japonaise en difficulté après un scandale de maquillage de données sur ses véhicules. Derrière cette nouvelle alliance, le français Carlos Ghosn, actuel PDG de Nissan et de Renault. Il devrait devenir le président du conseil d'administration de Mitsubishi Motors au mois de décembre. Un mot de météo pour votre fin de semaine. Matinée ensoleillée en Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des averses en Rhône-Alpes et en Normandie. Du brouillard en Poitou-Charentes. Les températures de 7 degrés à Metz, à 18 à Ajaccio.